Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Se tester chez soi avec un prélèvement dans le nez, ce sera bientôt possible. Feu vert ce soir de la Haute Autorité de Santé et mode d'emploi dès le début de ce journal avec Anne Le Gall.
Ils le réclamaient à corps et à cri, les restaurateurs, les hôteliers, les bars ont enfin un plan pour la réouverture quand elle aura lieu.
Plan en trois étapes qui permettent aux intéressés d'avoir un peu plus de visibilité.
Au sommaire également, un collégien de 11 ans accusé d'avoir harcelé un camarade s'est suicidé après avoir été exclu temporairement et réprimandé par sa mère.
Didier François nous parlera de ce mouvement qui prend de l'ampleur sur les réseaux sociaux en Asie, l'Alliance du thé au lait, c'est son nom, mouvement de soutien aux jeunes qui manifestent pour la démocratie. Et puis Angèle Châtelier nous dira que le rap, et en particulier le rap français, a sauvé l'industrie de la musique l'an dernier.
La météo avec une fan de rap, tiens aussi Anissa, oui. Dadi, qui nous a retrouvé du gris, du frais pour demain au programme.
Oui, le ciel est couvert sur une grande partie du pays demain, toujours un temps agité et nuageux à l'est. Les températures matinales seront fraîches demain. Demain matin.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc l'info de la soirée, on va pouvoir bientôt s'auto-tester.
Oui, la Haute Autorité de Santé vient de donner effectivement son feu vert à des tests rapides que l'on peut faire chez soi sans l'aide d'un professionnel de santé.
Alors il s'agit de tests à prélèvement nasal, mais l'avantage c'est qu'ils font moins mal que ceux que l'on fait en pharmacie ou bien en laboratoire, Anne Le Gall.
Oui, car on enfonce moins profondément les couvillons dans le nez, 3-4 cm environ. Le résultat se lit comme sur un test de grossesse. Il apparaît en une vingtaine de minutes. La Haute Autorité de Santé a rendu un avis favorable pour leur utilisation dans deux situations, explique le professeur Dominique Le Guludec, la présidente de la HAS.
Dans la sphère privée, c'est-à-dire par exemple avant une réunion de famille, mais évidemment pas à 15. Et puis, les tests rapides pour dépistage ciblé, pour aller débusquer le virus, par exemple dans des lycées, des facultés, un immeuble. Dans ce cas, on l'utilise en complément des autres tests.
Et en cas de résultat positif, les patients devront obligatoirement faire un test de confirmation par PCR pour confirmer le résultat et rechercher d'éventuels variants. Pour la HAS, ces tests devront cependant être réservés aux plus de 15 ans, car l'anatomie du nez pourrait modifier le résultat chez les plus jeunes et on manque pour l'instant de données cliniques à ce sujet. Mais contrairement à ce qui se passe en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas ou en Angleterre, ces tests ne sont pas encore disponibles en France car avant d'arriver sur le marché, ces autotests doivent être validés par l'agence du médicament à la demande de leurs fabricants.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
Va-t-on reconfiner l'Île-de-France ? La question évidemment fait débat et elle a sans doute été au cœur des discussions cet après-midi entre Emmanuel Macron et les représentants du Conseil scientifique.
Le chef de l'État s'est ensuite entretenu avec des médecins réanimateurs alors que demain se tient un nouveau conseil de défense sanitaire. Dans ce contexte, une nouvelle source d'inquiétude avec ce nouveau variant qui a été découvert en Bretagne.
Oui, détecté le mois dernier à l'hôpital de Lannion, ça se trouve dans les Côtes d'Armor, au cœur d'un cluster de 79 cas positifs.
D'après les analystes, toutefois, il ne serait ni plus dangereux, ni plus contagieux, mais il aurait cette particularité de ne pas être bien détecté par les tests PCR.
Voilà, ce qui est quand même évidemment ennuyeux. Allez, on a quand même un début de bonne nouvelle ce soir, Isabelle.
Oui, les restaurateurs, hôteliers et patrons de bars réclament, vous le savez, de la visibilité et surtout un plan d'attaque, un protocole applicable en cas de reprise, un plan de réouverture. Eh bien, ça y est, ils l'ont et ça se passera en trois phases, Élise Dangean.
Absolument, trois phases d'un mois chacune. Il faudra donc un trimestre entier pour retrouver une quasi-liberté. La première étape de ce protocole ne concerne que les clients des hôtels. Ils pourront prendre leur petit déjeuner dans la salle de restaurant de l'établissement. Un mois plus tard, les bars et restaurants pourront rouvrir avec une jauge à 50% de leur capacité à l'intérieur pour les deux, mais aussi en terrasse pour les bars. Cette étape intermédiaire est capitale, vous l'aurez compris. Si elle se passe bien, le gouvernement pourra lever les jauges. Mais attention, il faudra toujours respecter le fameux mètre de distanciation entre les tables et ça, de la phase 1 à la phase 3. Les clients seront également priés de scanner un QR code avec leur téléphone afin de tracer les éventuels cas. C'est donc un protocole progressif qui sera mis en place dès lors que le gouvernement donnera son feu vert. Feu vert qui va dépendre de deux facteurs. Le nombre de cas positifs au Covid-19 dans le pays et le nombre de vaccinés. Pour le moment, on ne connaît pas les seuils. Trop d'incertitudes à ce stade, mais le gouvernement y travaille.
Précision signée Élise Dangean du service Écho d'Europe 1. Merci Élise.
19h05, on vous le disait dans les titres, l'actualité c'est aussi ce drame en région parisienne, dans le Val-de-Marne.
Un collégien de 11 ans s'est défenestré, il a succombé à ses blessures. Il venait d'être convoqué pour avoir harcelé un camarade, Gladys Laffitte.
Oui, ça s'est passé hier en fin d'après-midi chez ce jeune garçon de 11 ans. Il s'est jeté par la fenêtre du quatrième étage de l'immeuble. Selon les premiers éléments de l'enquête, il venait de se faire disputer et gifler par sa mère parce qu'il était accusé d'harceler l'un de ses camarades de classe de 6e. Un peu plus tôt dans la journée, le collège l'avait convoqué avec sa mère pour qu'il s'explique et surtout pour le punir, pour l'exclure temporairement. Une fois rentré à la maison, donc, la dispute a éclaté. Sa mère l'a envoyé dans sa chambre, elle est partie prendre une douche et c'est pendant ce laps de temps que le jeune garçon a écrit une lettre d'excuse à l'attention de son camarade de classe qui l'avait harcelé, puis il s'est défenestré. C'est un voisin qui est venu prévenir la mère. Malgré son transport à l'hôpital, le garçon est décédé dans la soirée. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. Bientôt une nouvelle carte d'identité française. Elle sera plus petite, de la taille d'une carte bancaire et plus sécurisée grâce à la biométrie. Cette nouvelle carte est expérimentée depuis ce matin dans l'Oise et elle sera généralisée dans tout le pays à partir du 2 août.
Et puis Jean Lassalle annonce sa candidature à la présidentielle. Le député béarnais entend incarner, dit-il, la joie malgré la crise. Un vaste programme, n'est-ce pas ? En 2017, il avait récolté 1,21% des voix.
Europe 1, Julien Bugier.
19h06, restez avec nous dans quelques secondes. La solidarité des jeunesses asiatiques contre l'autoritarisme.
Et puis le rap qui domine l'industrie musicale.
19h08, la suite du journal. C'est un mouvement tout à fait original qui se développe actuellement en Asie depuis quelques mois et qui a pour nom l'Alliance du thé au lait. En fait, c'est un hashtag, comme MeToo ou comme Balance ton porc, dont l'objectif est de soutenir tous les jeunes qui manifestent pour la démocratie.
On en parle ce soir avec notre spécialiste des affaires internationales, c'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Alors cette Alliance du thé vise également à dénoncer le soutien de la Chine aux dictatures de la région.
Oui, et c'est un véritable phénomène continental, alors qui de Hong Kong à la Birmanie, en passant par la Thaïlande, fédère dans une même campagne tous les jeunes qui veulent secouer le joug des régimes autoritaires, mais qui se retrouvent systématiquement confrontés à la répression, puisque dans ces pays, les manifestations sont souvent interdites, violemment dispersées, que leurs dirigeants sont arrêtés et traînés en justice. Donc cette génération a investi massivement dans les réseaux sociaux pour mener son combat, en publiant des informations, des vidéos, des manifestes, en échangeant ses expériences. Si elle se retrouve là, face à une seconde forme de censure que sont les énormes moyens de lutte informatique mis en place par les services de sécurité chinois pour contrôler ce qui se diffuse sur le net et pour harceler les voix dissidentes. Alors au départ, ça ne touchait que la Chine, puis rapidement, ça, les cyber-opérateurs de Pékin se sont attaqués aux militants pro-démocratie de Hong Kong, puis à ceux de Thaïlande, et aujourd'hui à ceux de Birmanie, ainsi qu'à tout leur soutien à Taïwan, en Inde, à Singapour. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, eh bien, c'était en avril dernier, lorsque les propagandistes chinois ont lancé une violente campagne contre un acteur thaïlandais, et puis sa compagne, un mannequin célèbre, qui avait osé publier sur son compte Twitter des interrogations sur l'origine du Covid-19.
Et c'est la réaction de soutien des internautes à ces deux personnalités qui a enclenché ce mouvement.
Exactement. Des dizaines de milliers de jeunes asiatiques se sont alors montés au créneau contre les trolls chinois pour protéger la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Et ils se sont regroupés sous ce mot-clé « Alliance du thé au lait ». Alors c'est un clin d'œil justement, hein, puisque le thé, c'était évidemment la boisson la plus répandue dans toute l'Asie. Seulement, chaque pays boit son thé de manière différente. Et la ligne de partage, eh bien, c'est qu'en Chine, on le boit nature, noir, amer, alors que partout ailleurs en Asie, il est accommodé avec du sucre et surtout avec du lait. Donc les jeunes ont choisi ce nom de mouvement pour désigner avec humour leur adversaire, le régime communiste chinois, qui sert aujourd'hui de béquille à tous les gouvernements autoritaires de la région et qui est pour eux, pour ces jeunes, donc le principal obstacle au développement de la démocratie.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est évidemment tous les soirs, vous le savez, dans le journal de 19h.
Alors je ne sais pas comment ça s'est passé en Asie, mais j'imagine que c'est la même chose. En France, en tout cas, on a beaucoup écouté de musique pendant la période du confinement. C'était vital hein, pour le moral. Et la bonne nouvelle, alors que d'autres secteurs de la culture vont très mal, on le sait, eh bien, c'est qu'on a réussi à limiter la casse. Les ventes restent stables, d'après les chiffres du syndicat national des éditions phonographiques. Stables notamment grâce au rappeur Angèle Châtelier.
Oui, sur les 20 albums les plus vendus en 2020, presque la moitié sont ceux de rappeurs, comme celui d'Attic. Angela, appelle-moi ce soir. Et ça s'explique par la croissance exponentielle du streaming, qui représente désormais la moitié du chiffre d'affaires du secteur de la musique enregistrée. Et qui écoute le plus la musique de cette manière ? Eh bien, ce sont les jeunes, 96% des 16-24 ans, et du rap principalement. Ce qui explique ce succès, c'est aussi parce que depuis la crise du disque, on comptabilise les écoutes en streaming dans les ventes d'albums. Ce n'est pas étonnant donc que les rappeurs dominent les classements. Ninho, par exemple, est à la deuxième place des albums les plus vendus cette année, après Vita et Slimane.
Ça va, Stano, dans un 4 étoiles.
Autre signe que le marché se porte bien, c'est que malgré la crise, la vente en physique, en dur, n'a pas été si impactée. Les ventes ont baissé de 20%, oui, mais les CD, les vinyles, c'est tout de même plus d'un quart des ventes globales de musique en France. Le vinyle, donc, est loin d'être démodé. Ses ventes ont même augmenté de 10%. Cependant, ce ne sont pas les rappeurs qui s'imposent, mais les grands classiques comme Nirvana ou Queen. I want to break free.
Elle a quoi ?
Angèle Châtelier, service culture d'Europe 1. Et lui, on ne sait pas, il emportera peut-être du rap dans l'espace. Thomas Pesquet,
oui,
sera en tout cas le prochain commandant de bord de la Station Spatiale Internationale. Et c'est une première pour un Français.
Absolument, merci Isabelle. C'était le journal d'Isabelle Millet. 19h13, un coup d'œil au temps. La neige continue, tiens, de tomber à l'est.
Oui, Anissa. Dans les Vosges, sur le Jura et puis dans les Alpes du Nord. C'est vrai que depuis plusieurs jours, il neige et il neige à basse altitude. Hein. Et demain, ça continue puisque nous aurons des flocons des 500 mètres. Dans le Nord-Est, le temps reste très instable comme aujourd'hui. Demain, ça va même s'accentuer puisque nous aurons des averses et des giboulées de Mars tout au long de la journée. Dans l'après-midi, ce temps perturbé arrive jusqu'en Auvergne et en vallée du Rhône. Sur la façade atlantique, les éclaircies sont de retour. Bonne nouvelle, on va enfin revoir le soleil entre les pays de la Loire et la Gironde. Et puis dans le sud, le Mistral et la Tramontane soufflent toujours fort. Ils chassent les nuages et du coup, il fait beau. Les températures, elles sont fraîches et elles baissent moins 1 degré du côté du Jura. 4 degrés, allez, 0 à 4 degrés dans l'Est. Nous aurons 5 à 11 degrés partout ailleurs.
Hein, 0 à 4 degrés, il faut choisir.
Ouais,
hein.
0 à 4 degrés. Bon, on aura par exemple 1 degré du côté de Belfort et 3 à Nancy et Metz. Ah, et dans l'après-midi, comptez 7 à 18 degrés. 7 pour Belfort, 11 à Paris, 13 à Bordeaux et Saint-Jean-de-Luz, 15 à Marseille et 18 à Toulon pour la maximale.
18 à Toulon.
Ouais, c'est agréable.
On n'est pas
sous le soleil,
égaux devant la météo.
Mais il y a du vent.
Merci Anissa, merci beaucoup. On vous retrouve demain évidemment à partir de 18h.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.